Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans la demi-heure qui suit, nous allons entendre le quatrième et dernier épisode d'une série de quatre émissions consacrée au voyage de René Caillé à Tombouctou au XIXe siècle. René Caillé, premier Européen chrétien à jamais être entré dans cette cité mythique, joyau de l'islam soufi traditionnel. René Caillé quitte donc enfin Tombouctou et il met le cap au nord à travers le Sahara. Et c'est toujours la voix d'Alain Kerjean qui nous guide au micro de Marie-Hélène Fraissé.
Je suis né en 1800 à Mauzée, département des Deux-Sèvres, de parents pauvres. J'eus le malheur de les perdre dans mon enfance. Je n'ai reçu d'autre éducation que celle que l'on donnait à l'école gratuite de mon village. Dès que je sus lire et écrire, on me fit apprendre un métier dont je me dégoûtais bientôt, grâce à la lecture des voyages qui occupaient tous mes moments de loisir. L'histoire de Robinson, surtout, enflammait ma jeune tête. Je brûlais d'avoir comme lui des aventures.
René Caillé, voyage à Tombouctou, 1827-1828, quatrième et dernier épisode de Tombouctou à Tanger. Il a eu les fièvres, il a eu le scorbut, il a risqué 100 fois d'être supprimé. Et pourtant, René Caillé est enfin arrivé dans la ville de ses rêves, Tombouctou, capitale du Soudan. Tombouctou l'a précédé de quelques mois un seul Européen, un Anglais, le Major Lang, qui s'y est d'ailleurs fait assassiner.
À Tombouctou, il est reçu par un riche notable et on voit encore la maison dite de Caillé.
Sur les traces de René Caillé, Alain Kerjean, explorateur.
Ce n'est pas du tout à cet emplacement, mais un voyageur français de 1894 a décrété que c'était là. Ça ne correspond pas du tout à la description du journal de Caillé. Notre point de référence étant la maison du Major Lang, de l'explorateur anglais, qui, lui, ne cachait pas son identité. Donc, son passage a été très remarqué et sa maison a été localisée. Caillé est extrêmement déçu par cette ville parce que les gens, les commerçants de Tombouctou complètement encerclés et taxés par les Touaregs, n'avaient pas intérêt à exhiber leurs richesses et étaient au contraire tentés d'offrir une image de la plus grande décrépitude, de façon à ce que les pirates Touaregs n'aient pas très envie, ne soient pas attirés par des biens qu'ils voudraient convoiter.
Ces gens ne viennent à Tombouctou que pour arracher aux habitants ce qu'ils appellent des présents, et que l'on pourrait appeler plus justement des contributions forcées. J'en ai vu souvent rester assis dans la cour et se faire nourrir jusqu'à ce que le maître leur eût envoyé son tribut. Ils viennent toujours à cheval et se font donner du fourrage. Quand le chef de cette peuplade arrive avec sa suite à Tombouctou, c'est une calamité générale. Et cependant, chacun le comble de soins et de présents pour lui et les siens. Il demeure quelquefois 2 mois, toujours nourri aux frais des habitants et du roi, qui y joint des présents d'une plus grande valeur. Il ne retourne chez eux que chargé de mil, de riz, de miel et de quelques effets confectionnés. Les Touaregs, par la terreur de leurs armes, ont rendu tributaires tous les nègres leurs voisins. Ils exercent envers eux le plus affreux brigandage. Ils ont, comme les Arabes, de beaux chevaux qui les facilitent dans leurs incursions vagabondes. Les peuplades qui y sont exposées ont tellement peur d'eux qu'il suffit de 3 ou 4 Touaregs pour donner l'épouvante à 5 ou 6 villages. À Tombouctou, on ne laisse plus sortir les esclaves hors de la ville après le coucher du soleil, de peur qu'ils ne soient enlevés par les Touaregs, qui s'emparent de vive force de ceux qui leur tombent sous la main et rendent bien plus déplorable la condition de ces malheureux. La ville de Tombouctou est habitée par des nègres de la nation Kissour. Ils en font la principale population. Beaucoup de Maures se sont établis dans cette ville et s'y adonnent au commerce. Je les compare aux Européens qui vont dans les colonies dans l'espoir d'y faire fortune. Ces Maures retournent ensuite dans leur pays pour y vivre tranquille. Ils ont beaucoup d'influence sur les indigènes. Cependant, le roi ou gouverneur est un nègre. Ce prince se nomme Osman. Il est très respecté de ses sujets et très simple dans ses habitudes. Rien ne le distingue des autres. Son costume est semblable à celui des Maures du Maroc. Il n'y a pas plus de luxe dans son logement que dans celui des autres commerçants. Il est marchand lui-même et ses enfants font le commerce de Djenné. Il est très riche. Ses ancêtres lui ont laissé une fortune considérable. Il a 4 femmes et une infinité d'esclaves. Il est mahométan zélé. Ce prince nous reçut au milieu de sa cour. Il était assis sur une belle natte avec un riche coussin. Nous nous tîmes assis un instant à une petite distance de sa personne. Mon hôte lui dit que je venais lui présenter mon hommage. Il lui raconta mes aventures. Je ne pus comprendre leur conversation car ils parlaient la langue des Kissour. Le roi m'adressa ensuite la parole en arabe, me fit quelques questions sur les chrétiens, sur la manière dont ils m'avaient traité. Notre visite fut courte et nous nous retirâmes. J'aurais désiré voir l'intérieur de la maison, mais je n'eus pas cette satisfaction. Ce prince me parut d'un caractère affable. Il pouvait avoir 45 ans, ses cheveux étaient blancs et crépus. Il était de taille ordinaire, avait une belle physionomie, le teint noir foncé, le nez aquilin, les lèvres minces, une barbe grise et de grands yeux. Ses habits, comme ceux des Maures, étaient faits en étoffe d'Europe.
Alors, on l'aide à se rendre à Tanger, au Maroc. Alors pourquoi au Maroc? Alors qu'il aurait été si simple de revenir par le même chemin, ou en tout cas de couper vers le Sénégal, par l'actuel Sénégal. Eh bien, c'est parce que il voulait que son exploit, son exploration, ne fût pas mise en cause. Et en effet, s'il était revenu à son point de départ, on aurait pu douter de la véracité de son récit. Alors que, réapparaissant 18 mois après, alors qu'il était complètement... il avait disparu, il était donné mort et perdu, il réapparaissait à l'autre bout de l'Afrique, là, son récit était beaucoup plus convaincant. Alors il se joint à une caravane et il entreprend, alors là, le calvaire. Ça a été vraiment épouvantable pour lui. Le chef de Tombouctou avait payé un membre de cette caravane pour garder sous sa protection, pour s'occuper de René Caillé. Mais ce membre de cette caravane a complètement oublié sa promesse et a martyrisé vraiment René Caillé.
Le 4 mai 1828, À 8 heures du matin, nous faisions route au nord sur un sable presque mouvant, très uni et entièrement aride. Mais à 2 milles de la ville, nous vîmes quelques arbustes semblables aux genévriers et des bouquets de Mimosa ferruginea, assez hauts, donnant un peu de gomme de mauvaise qualité. Les habitants de Tombouctou envoient des esclaves jusque-là pour couper du bois à brûler. La chaleur était accablante et la marche des chameaux fort lente parce qu'ils broutaient en cheminant des chardons et quelques herbes flétries éparses çà et là dans ces plaines arides. Durant cette première journée, on donna à boire aux esclaves comme à moi, à discrétion. Conduite fort humaine, sans doute. Mais je ne fus pas moins outré d'un acte de barbarie que depuis je ne vis que trop souvent se renouveler. Des morts maltraitant un pauvre esclave Bambara de 25 ans l'obligeaient de marcher sans lui permettre de s'arrêter et sans lui donner à boire. Ce malheureux, qui n'était pas habitué à de si grandes privations, se plaignait de manière à toucher les cœurs les plus durs, en s'appuyant sur la croupe des chameaux ou en se couchant par terre. Vainement demandait-il de l'eau, les mains jointes et en pleurant. Ses maîtres cruels ne répondaient à ses prières et à ses larmes qu'à coups de verges et de cordes. Le 6 mai 1828, vers 11 heures du soir, nous nous mîmes en route, toujours pour le nord, nous dirigeant sur l'étoile polaire. Les chameaux connaissent si bien le désert qu'aussitôt qu'ils sont chargés, ils prennent par instinct la route du nord, comme s'ils étaient conduits par le souvenir des puits qu'on doit y trouver. Je crois qu'un voyageur étant seul n'aurait pas besoin d'autre guide pour arriver. La nuit fut chaude et calme. Le ciel, qui était serein, nous laissait voir sa voûte étoilée. Nous avions devant nous le grand et le petit chariot qui paraissaient très près de l'horizon. Ne pouvant dormir sur ma monture, j'observais les astres parcourir leur carrière. Je remarquais à l'Orient le groupe d'étoiles si remarquable appelé la constellation d'Orion. Je l'observais encore à peu près à moitié de sa course, presque à notre zénith. À l'approche du jour, il disparaissait et semblait s'ensevelir dans un océan de sable.
Le 11 mai, René Caillé arrive à El Arawan.
Cette ville, comme Tombouctou, n'a aucune ressource par elle-même. Elle est l'entrepôt des sels de Toudéni. Son sol est encore plus aride que celui de Tombouctou. À quelque distance que la vue puisse s'étendre, on n'aperçoit pas la moindre trace de végétation. Les chameaux des nombreuses caravanes vont très loin pour trouver du fourrage. Le bois est si rare qu'on ne brûle que du crottin de chameau. Les esclaves le ramassent soigneusement. Il n'y a pas d'autre combustible pour faire la cuisine. Les morts vont à la recherche de leurs chameaux tous les 6 jours pour les mener boire aux puits qui sont dans les environs de la ville et qui ont 60 pas ordinaires de profondeur. Ils se servent d'un chameau pour tirer le seau qui est en cuir. Ils font usage d'une poulie. L'eau de ces puits est saumâtre, très malsaine et toujours chaude.
Au bivouac, c'est les femmes qui le torturaient littéralement. En profitant de sa misère et de sa faiblesse pour le taquiner, pour le chasser des abris, des tentes où il voulait se réfugier, le taquinant avec des épines, avec des bâtons, ça a été réellement une persécution épouvantable. Et rares ont été les gestes d'amitié. C'est arrivé lorsqu'il est tombé complètement épuisé de son chameau, quand il avait la chance de monter sur un chameau, car la plupart du temps, on l'obligeait à marcher avec les esclaves, à pied. Eh bien, lorsqu'il s'est donc fait assez mal en tombant de ce chameau, l'un des nomades l'a soigné, l'a réconforté, l'a aidé à remonter. Bon. Alors, c'est des gestes d'amitié dont on se souvient longtemps, même s'il est un petit peu ingrat.
Le 31 mai, vers midi, nous fîmes halte. La chaleur très forte était encore augmentée par un vent brûlant qui soufflait de l'est. On dressa les tentes où nous entrâmes pour nous mettre à l'abri d'un vent brûlant. On nous distribua fort peu d'eau, vu l'impossibilité de s'en procurer. Le sol était composé de sable dur mêlé de beaucoup de gravier. Le vent d'est souffla si fort que toutes les tentes furent renversées. Vers le coucher du soleil, nous eûmes une alerte. Les chameliers, éloignés de notre camp, aperçurent des morts qu'ils prirent pour des voleurs. Ils vinrent à nous en criant « Aux armes !» Aussitôt tout le camp fut sur pied. Chacun prit ses armes et tous coururent au-devant de l'ennemi prétendu. Je vis plusieurs de nos gens qui tremblaient, ce qui me fit présumer que le danger était grand. Il ne resta dans le camp que 3 ou 4 vieux marabouts, les esclaves et moi. Ils se mirent aussitôt en prière. L'un d'eux m'appela et me donna un peu d'eau et un morceau de viande de chameau bouilli, sans doute pour se rendre le ciel favorable. Quant à moi, je n'étais pas plus tranquille que les morts. Je pensais tristement à ce que nous deviendrions si l'on nous enlevait nos chameaux, seule ressource pour traverser le désert. Il nous faudra, me disais-je, mourir dans cet affreux pays, car nous sommes trop éloignés pour recevoir des secours de personne. Et pour comble de malheur, notre provision d'eau était presque épuisée.
C'est une caravane de marchands composée d'un nombre extraordinaire de chameaux. On a du mal à... Ça existe encore. Une fois par an, il y a des caravanes de plusieurs centaines de chameaux qui se déplacent ainsi. Mais là, c'était l'une d'elles, une caravane absolument énorme, une ville en déplacement. Et il a bien du mal à résister, à survivre. Et il lui faut une ténacité extraordinaire pour, hors du commun, pour ne pas s'abandonner à la mort. Et il est tenté à plusieurs reprises au cours de son voyage de se laisser mourir, tellement ses souffrances étaient difficiles à supporter. Il n'a pas été réduit en esclavage, même si on l'en menaçait. On lui dit, tu sais, j'ai plus de respect pour mon esclave que pour toi. On le menaçait de le réduire en esclavage, de le vendre, ce qui aurait très bien pu lui arriver, ce qui est arrivé à bien d'autres voyageurs européens avant lui. Mais ça ne va pas jusque-là. Et cette traversée sous une chaleur extraordinaire, en le privant d'eau, en l'obligeant à mendier quelques gouttes d'eau, quelques gouttes de lait, ça a été un calvaire, je crois, unique dans l'histoire de l'exploration. Ça a été certainement l'exploration de l'Afrique la plus remarquable, la plus difficile et qui a porté le plus à la connaissance de l'Afrique. Il arrive dans le sud marocain, à peu près à la hauteur de la boucle de la rivière Dra, dans cette région, le Tafilalet, qu'on ne connaissait pas du tout. On s'imaginait à cette époque que c'était une seule ville. En réalité, c'est une région, un ensemble de petites villes, de petits villages.
Le Tafilet est un petit arrondissement faisant, comme Eldra, partie des états de l'empereur de Maroc. Ses habitants paient quelques impositions à ce souverain. Il y entretient un bacha ou gouverneur. Le sol de Tafilet est uni et composé d'un sable gris cendré, très productif. On y cultive beaucoup de blé, toutes sortes de légumes et de fruits d'Europe. La luzerne y vient très belle. Quand elle est sèche, on la sert pour la provision d'hiver.
Le danger est encore plus grand parce que le fanatisme religieux est beaucoup plus important. Et jusqu'au dernier moment, tout peut être mis en cause. Il peut être très bien assassiné si sa identité est découverte. Et lorsqu'on est complètement épuisé, quand on est fatigué, l'erreur, dans un délire par exemple, fiévreux, l'erreur est possible, on peut très bien se trahir avec un mot, avec... Et là, le moindre faux pas aurait été fatal. Alors, il dit pas grand-chose de cette partie de son voyage. parce que d'abord il est épuisé, à tel point que certains s'en étonnent, certains critiquent. S'étonnent, mais comment ? Il a traversé le Sahara, il est passé par les gorges, par telle ou telle gorge, il n'en a pas dit un mot. Il est arrivé à Fès, il n'a même pas décrit cette ville. Est-ce que vraiment son voyage est authentique ? Est-ce qu'il n'aurait pas récupéré quelque part les manuscrits, les notes du Major Lingue ? Et est-ce qu'il n'en aurait pas fait un récit imaginaire à son propre compte ?
Dès que nous fûmes entrés dans Rabat, j'allais avec mon guide me promener dans la ville et tâcher de découvrir la demeure du consul de France, car je supposais qu'il y en avait un. Je tenais à la main quelques shillings afin de parvenir, sans me compromettre, à trouver la maison consulaire. Je priais plusieurs maures de me l'échanger, bien persuadé qu'ils ne le feraient pas, car ils sont peu complaisants, mais je prévoyais qu'ils m'enverraient auprès d'un chrétien et que je profiterais de cette petite ruse pour lui parler sans exciter de soupçons. Effectivement, le premier à qui je m'adressais pour le prier de me donner de la monnaie du pays me renvoya aux chrétiens. J'en profitai pour demander le consul de France, en lui disant que la monnaie était française. N'ayant aucun soupçon sur moi, il m'enseigna sur le champ sa demeure. Je frappai à la porte et je tressaillis de plaisir en pensant que j'allais voir un Français. Un juif, parlant assez bon anglais, vint m'ouvrir. Il me dit que le consul était auprès du sultan, mais qu'il reviendrait bientôt. Je m'éloignai un moment pour revenir. Alors le juif qui m'avait ouvert la porte la première fois me présenta à monsieur le consul de France à Rabat. Grand Dieu, que je me trouvais déconcerté lorsque je reconnus qu'il était juif lui-même. J'étais tellement atterré que je restai un moment sans ouvrir la bouche. Cependant, il me parla en assez bon français et me demanda ce que j'avais à lui dire. Un peu revenu de ma stupéfaction, je lui montrai mes shillings et le priai de me les changer. Un marchand anglais qui se trouvait avec lui et à qui je confiai mon secret me dit que je pouvais en toute assurance communiquer aux juifs le sujet qui m'amenait auprès de lui.
Alors il se précipite à Tanger, enfin il se précipite autant que sa santé pouvait lui permettre. Et c'est une véritable locumène, une espèce de vagabond, mais lamentable, qui frappe à la porte de Monsieur Delaporte, le consul de France à Tanger, et qui, par chance, est membre de la Société de Géographie de Paris, qui est tout à fait passionné par les tentatives de découverte de Tombouctou, et qui l'accueille très bien, mais avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, car la deuxième fois que Caillé revient chez Delaporte, Delaporte le met, si c'est le cas de le dire, le chasse de chez lui. Car si tel ou tel serviteur, tel ou tel Marocain s'était aperçu qu'il était accueilli comme un blanc, au dernier moment, il risquait d'être découvert et assassiné. Le consul général organise son évasion, c'est vraiment de cela dont il s'agit, en lui prêtant des vêtements de marin et en le faisant embarquer de nuit à bord d'un bateau, d'un navire qui faisait voile vers Toulon.
Le 26 septembre 1828, à 6 heures du matin, nous fîmes voile par un vent favorable et, à ma grande satisfaction, nous eûmes bientôt perdu Tanger de vue. Les soins de M. Jolivet eurent une heureuse influence sur ma santé. La fièvre me quitta et l'air pur de la mer me rétablit presque entièrement. Nous arrivâmes à Toulon après 10 jours d'une traversée fort heureuse. Ceux qui ont été longtemps absents de leur pays et qui ont pu craindre de n'y jamais rentrer, ceux-là seuls peuvent se faire une idée de ce que j'éprouvais en revoyant cette chère patrie. Pendant que j'étais en quarantaine, j'écrivis à M. Jomard, président de la commission centrale de la Société de géographie, pour lui donner avis de mon voyage. Peu après, je reçus pour première preuve de l'intérêt bienveillant de cette savante société une somme de 500 francs afin de m'aider à me rendre à Paris. Bientôt, j'eus la glorieuse satisfaction de mériter ses suffrages. Elle applaudit à mon zèle et m'accorda la récompense promise au premier voyageur qui serait parvenu dans la ville mystérieuse de Tombouctou et en aurait rapporté des observations positives.
Le voyage à Tombouctou de René Caillé, et c'était la quatrième et dernière émission. Les lectures étaient de Jacques Frantz, le mixage d'Olivier Berotte et la réalisation d'Eliane Millot.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 mai 1984. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Mmh.